Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour la dernière de la semaine. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Dans son premier livre, Finir le jour, rencontre et réflexion en fin de vie, la journaliste Nathalie Billon est allée à la rencontre de gens qui sont en phase terminale, donc qui sont en centre de soins palliatifs, pour leur poser des questions, diverses questions sur qu'est-ce que ça représente pour eux, la fin de vie, la mort. Est-ce qu'on a peur de la mort quand on en est si près? Le contact aussi avec les proches, comment ça se passe, laisser ceux qu'on aime, la douleur également. Ça donne un récit très, très touchant et je la rencontre en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, au Québec, c'est environ 6 femmes sur 10. C'est beaucoup ça, qui cherchent à maigrir ou du moins à contrôler leur poids. Et de ce nombre-là, on dirait qu'on dit qu'il y a à peu près 17 % qui ont recours à un produit ou à un régime, un service amaigrissant. Ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart d'entre elles, j'utilise elles parce que bon, c'est des femmes, là, davantage, auraient déjà leur poids santé et les autres, et ça, on le sait de plus en plus, on en parle, vont reprendre le poids perdu suite au régime. Comment on se sort de ce cycle-là plutôt infernal? J'en parle à l'instant, dans quelques instants, avec Guylaine Guévremont, qui est diététiste nutritionniste, auteure conférencière, fondatrice et directrice générale de la clinique Mula. Bonjour Guylaine.
Bonjour.
Merci d'être là. Je me suis amusée, en lien avec le sujet, à faire des petites recherches sur le web aujourd'hui. Et c'est assez facile de tomber sur des titres d'articles intitulés « Est-ce que les fruits font engraisser? Est-ce que les féculents font engraisser? Les aliments pour faire fondre la graisse? Les aliments à éviter pour perdre du poids, etc. Et pourtant, vous qui prônez depuis plusieurs années une diète, ben, en fait, pas du tout une diète, mais une approche intuitive pour se sortir justement de ces régimes-là, en fait, vous prônez les anti-régimes. Est-ce que les aliments, on les pense les premiers en ligne là, pour prendre du poids, sont-ils responsables de la prise de poids?
Non, non, pas du tout. Puis c'est pas assez dit, en fait, malheureusement. On s'acharne à regarder le contenu de l'assiette pour trouver le responsable de la prise de poids. Parce que c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe, l'obésité est en augmentation. Fait qu'on rêve en couleur. Puis quelqu'un qui fait un régime perd du poids. Donc, on se dit, ben si se priver fait perdre du poids, ben il y a quelque chose qui marche là-dedans. Sauf que on vit pas pour une année, on vit pas 2 ans, on vit pas 3 ans. Les études démontrent qu'après 5 ans, 95 % des gens ont repris le poids. Fait qu'à court terme, quand on regarde l'assiette, on se dit, il y a quelque chose qui peut faire perdre du poids si on coupe. Mais à long terme, 60 % des gens vont prendre encore plus de poids que le poids d'origine. Donc, de regarder le comportement alimentaire, elle est là, la solution. Puis c'est ce que je dis depuis, avant l'écriture de mon livre, depuis le début de ma carrière, finalement. Mais malheureusement, la place d'un tel message dépasse pas l'espace qu'il y a, justement, quand vous dites que vous avez tapé, puis tout de suite, on sort comme... Tu sais, je veux dire, il y a quelques années, c'était le gras qui faisait grossir. Après ça, c'était... Le sucre, là, maintenant, on est rendu avec le gluten.
En passant par les œufs, le beurre, les produits laitiers.
Tu vois, mais c'est parce que c'est ça, quand on s'arrête, parce que quand il y a comme une folie qui prend, là, comme là, le sucre est rendu, là, c'est une dépendance. Là, alors qu'il n'y a pas d'études qui démontrent ça. Il n'y a pas d'études qui démontrent que le sucre comme particule va déclencher une dépendance dans le cerveau. C'est sûr que les centres de plaisir sont activés. Manger, c'est un plaisir. Donc, obligatoirement, on va déclencher. Mais c'est pas... C'est parce qu'on cherche une solution. Puis, tu sais, j'en veux pas aux gens qui font ces recherches-là dans l'idée de trouver qui est le coupable, qui fait grossir les gens. On est face à une situation problématique, mais de tourner le miroir puis de regarder le mangeur implique une démarche qui est pas nécessairement aussi facile que juste... même si c'est pas facile de couper des aliments dans son assiette, mais c'est simple, mm-hmm. De regarder sa relation avec la nourriture, ce qui nous fait manger, les émotions qui peuvent nous faire manger, les émotions qui sont là, qui nous dérangent, puis de manger les apaise, ça implique un autre niveau mm-hmm. qui est plus complexe. Donc,
Sur le site de Mulan, on peut lire quelque chose, et bien sûr, je vais le simplifier. Je mesure tant, j'aimerais peser tant. Et vous dites, je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit mm-hmm. ce petit passage, mais on sait, on peut se teindre pour changer notre apparence. On peut, y a plein de choses qu'on peut faire pour modifier notre apparence, mais on ne peut pas s'attendre à ce que notre teinture soit éternelle. Mm-hmm. Et c'est un petit peu comme le poids. Il ne restera pas fixe comme on aimerait, comme on mm-hmm. souhaiterait le fixer. Et selon vous, on a une espèce de poids qui n'est pas un poids santé, mais un poids naturel. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est, ça?
Mais le poids naturel, c'est comme on a une taille qui est prévue d'avance, dans le sens que on a la taille, on a la couleur des yeux qui est prévue d'avance et on a un poids qui est prévu d'avance aussi dans notre morphologie, dans notre génétique. C'est sûr que la génétique toute seule n'est pas suffisante dans le sens, comme je disais tantôt, on a une taille, mais un enfant qui va manquer de nutriments en bas âge pendant la croissance ne va pas atteindre sa taille optimale. Mmh. Donc, cette personne-là pourrait avoir une génétique pour mesurer, je dirais, 6 pieds, disons, puis il va finir par en mesurer 5 pieds 5 parce qu'il a manqué de nutriments. Pareil pour le poids, dans le sens qu'il y a une génétique qui est là, mais il y a une influence de l'environnement qui va moduler. Donc, c'est pour ça qu'on parle de poids naturel et non pas de poids génétique. Et ce poids naturel-là, dans le fond, le corps l'obtient par l'écoute des signaux de faim et des signaux de satiété.
Hélène, vous êtes l'auteur de 3 livres, mm-hmm. notamment avec la journaliste Marie-Claude Lortie, « Manger et manger un jeu d'enfant mm-hmm. », également plus récemment « Manger ses émotions, pourquoi on succombe, comment on s'en sort ». On va y revenir à ce troisième livre-là. Mais d'abord, vous qui avez fait la promotion du plaisir mm-hmm. de manger dans mm-hmm. vos 2 premiers livres, mm-hmm. Si la nourriture, si manger, c'est pas ça le problème, il est où le problème avec la prise de poids?
Mais en fait, comme je disais tantôt, c'est dans le comportement alimentaire, dans le sens où est-ce que...
Avec la relation qu'on a avec les aliments.
Exactement, c'est ça, la relation qu'on entretient avec les aliments. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent influencer, par exemple l'éducation. Tu sais, si on s'est fait dire toute notre vie, finis ton assiette, tu peux pas gaspiller, pense aux enfants de tel pays qui, eux, meurent de faim. L'habitude se prend, puis l'être humain est un être d'habitude. Donc, on se pose plus de questions, on mange toute notre assiette, puis ça finit par devenir quasiment émotif. Là, moi, quand on travaille en clinique avec des gens, puis que là, je leur dis, essaie d'en laisser dans ton assiette. C'est là qu'on peut voir toute l'emprise émotionnelle, où est-ce que c'est tellement difficile au début juste de voir des aliments dans l'assiette, puis ne plus y toucher. Puis là, après ça, il y a comme toutes les choses à déconstruire de « Ah oui, mais là, ça fait du gaspillage. » Je veux dire, on fait du gaspillage. Un, c'est pas obligatoire. On peut le mettre au frigo puis que ça devienne une collation plus tard. Donc, c'est pas une obligation que ça soit du gaspillage. Oui. Mais sérieusement, quand on regarde la quantité d'affaires qu'on gaspille dans notre vie, il y a d'autres choses qui est là que juste l'idée de gaspiller. Et comme je dis, il y a toute cette idée d'éducation. Il y a toute cette idée, puis c'est pour ça que je suis arrivée à la fin avec le troisième livre, « Manger ses émotions ». Il y a un enjeu aussi du rapport personnel qu'on entretient avec notre corps, puis on cherche à s'apaiser. Donc ça, c'est pas banal non plus. Puis quand on regarde au niveau des troubles alimentaires liés à manger ses émotions, on voit que c'est pas seulement les femmes qui sont atteintes par ça.
De plus
ça,
en
là.
Plus les hommes. Hein?
Exactement. Oui, il y a deux hommes pour trois femmes. Alors que quand on parle de l'anorexie et de la boulimie, qui est plus le côté connu des troubles alimentaires, on parle d'un homme pour 10 femmes et un seul homme. Mm-hmm. Fait que là, on commence à avoir un ratio quasiment de 50-50. Ça serait temps qu'on regarde le rapport alimentaire puis pas juste ce qu'il y a dans l'assiette.
J'imagine que c'est extrêmement variant, mais ça prend combien de temps pour se réapproprier nos signaux de satiété, pour rééduquer, là, comme mmh. vous parliez?
Oui. En fait, moi, je dis toujours aux gens, quand ils appellent à la clinique puis qu'ils me posent cette question-là, parce que c'est sûr que c'est une question très difficile à répondre, mais je dis aux gens de prévoir une année. Dans le sens où est-ce que... c'est ça. Mais ça dépend du bagage. C'est sûr que quelqu'un qui arrive chez nous à 18 ans... qui a comme une historique de troubles alimentaires ou de problèmes avec la nourriture qui date d'il y a 2 ans, ça va pas prendre une année. Tu sais, quelques mois va être suffisant parce qu'il n'y a pas tout un historique en arrière. Sauf que chez nous, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivent avec un bagage de régime assez impressionnant. Ils ont fait des régimes pendant 20-30 ans. Donc, de déconditionner toutes les fausses croyances entretenues par rapport aux aliments, que tel aliment fait grossir, qu'on ne peut pas manger après 7 heures, qu'il faut déjeuner comme un roi, dîner, je sais plus, puis finir en mangeant comme un... Oui, c'est ça, exactement. Il y a toutes sortes de règles qui se sont installées avec les années. Où est-ce que plus il y a de régimes, mais tu sais, au lieu d'avoir, mettons, je sais pas, moi, ils en font un, il y a les règles de ce régime-là, ils en font un autre, il y a juste les règles de ce deuxième régime-là. Mais non, il y a les règles du premier qui continuent un peu dans le deuxième, puis ça finit que c'est en fait, c'est ça qui est le plus long, à aller toutes les sortir et les déconstruire pour aider à connecter avec les signaux de faim et satiété, parce que quand on est pris dans notre tête, c'est qu'on a faim, mais là, ça fait combien de temps que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Comment ça se fait que j'ai déjà faim? Ça, je devrais pas avoir faim. Finalement, on n'est plus du tout connecté sur notre signal.
Et tout ça, Guylaine, ce sont de fausses idées. Prendre un gros déjeuner ou tel aliment. C'est quoi la vérité? C'est simplement manger avec plaisir?
Mm-hmm. En fait, d'écouter ces signaux, puis de ne pas les écouter d'une façon rationnelle. Encore là, ce n'est pas un autre régime. Puis de... Tu sais, les gens, quand ils sont en suivi, ils ont comme, à un moment donné, ils font comme « Ah, mais ça devient tellement facile! » Il y a quelque chose de tellement simple. Tu sais, c'est comme aller faire pipi, tu sais. Je veux dire, on se casse pas la tête quand on a envie de faire pipi, de dire « Ah, comment ça se fait que j'ai déjà envie? » On y va, puis on...
C'est biologique, là.
Exactement. Ouais, ouais. Mais c'est cette même simplicité-là qui est à amener. Sauf que, comme je dis, tout dépendant de l'histoire qu'on a, mais chaque fois qu'on mange devient tellement compliqué que de ramener de la simplicité, ça peut quasiment sembler utopique. Alors que on vient au monde avec ce signal-là. Je n'aide pas les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. C'est juste de les aider à reconnecter sur qu'est-ce qui est là.
À retrouver ça. Oui, et en même temps, vous êtes confrontés à une industrie gigantesque. Là, on parle de plusieurs milliards de dollars, là, le marché du régime dans le monde. Ouais. Quand ces femmes-là, elles vous appellent, ou les hommes aussi, et vous leur dites, ça va prendre grosso modo un an. Ouais. Ça doit arriver que certaines raccrochent en disant « je vais aller voir ailleurs là, pour que ça prenne un mois, deux mois. »
Oui, c'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est que des fois, les gens me rappellent 2 ans plus tard puis me disent « Bon, là, j'ai compris. » Là, c'est comme là, je réalise que si j'étais juste venue, ça serait déjà réglé. Puis moi, je tiens à être honnête là, dans le sens où est-ce que effectivement il y a toujours cette tentation-là. Puis je peux te dire que même les gens qui se disent « OK, ça va prendre un an, mais ça prendra un an. » Puis j'embarque. Je dirais que les premiers 3 mois, cette ambivalence de dire « Ah, mais il y aurait quelque chose de tellement simple qui serait juste de me priver », on a à composer avec ça dans notre quotidien. Tu sais, c'est la tentation est tellement là, la perte de poids semble tellement comme la solution pour être mieux dans son corps, tu sais, puis de faire voir que finalement, la seule différence d'être mal dans son corps parce qu'on n'a pas l'image corporelle qu'on souhaite, c'est au-delà de kilos en trop, tu sais. Donc, faire prendre conscience que d'être bien, c'est un état mental et non pas un état physique. Ça fait partie du processus, finalement. Donc, c'est pas juste la relation avec la nourriture.
Oui, et j'imagine que quand on réapprend à reconnaître ces signaux-là de satiété, on s'éloigne tranquillement de l'esprit de contrôle. Je dois contrôler mon poids. Ça doit faire du bien, ça, à un moment donné, de nous enlever ça des épaules, là, de dire « je dois contrôler constamment
». Complètement, puis de réaliser qu'on n'a pas de contrôle, finalement. C'est au-delà de « j'ai plus besoin de contrôler ». On n'a pas de contrôle, parce que si on avait un contrôle sur notre poids...
On serait tous minces, comme on le souhaite,
dire,
là,
c'est
mettons.
Ça, exactement. C'est pas le manque de volonté. Puis ça, c'est terrible de faire porter ce fardeau-là aux personnes qui font le régime, dans le sens que ceux qui font les régimes disent « Regardez, vous perdez du poids quand vous faites votre régime. Donc, si vous reprenez du poids, c'est parce que vous manquez de volonté. Oui. » Donc, la réussite est sur le régime et l'échec est sur la personne. C'est pas vrai. Parce que pour s'astreindre à faire ça, ça en prend de la volonté. Donc, si c'était une question de volonté, comme vous dites, on serait tous au poids qu'on souhaite avoir. Mm-hmm. Donc, de réaliser que c'est ça, non seulement c'est pas la bonne voie à prendre de dire « je dois contrôler mon poids », c'est « j'ai pas de contrôle sur mon poids ». Donc, de laisser faire confiance à son corps, puis se dire là, que le système qui gère le poids, c'est le même qui gère notre cœur, qui fait nos hormones, qui nous fait respirer. Personne ne se lève le matin en disant « Hey, j'espère qu'aujourd'hui, mon cœur va tenir toute la journée. » On y fait confiance là, au point où on y pense
paniquerait.
Même pas. Mm-hmm. C'est ça. Je ne veux pas vous mettre des idées dans la tête. Mais dans le fond, Alors qu'on pense qu'il faut qu'on contrôle notre poids, ce système-là, il est exceptionnellement bon, là. Juste d'apprendre à lui faire confiance. Mais tu sais, quand on a lutté contre son poids toute sa vie, faire confiance à son corps, c'est toute une étape là, de dire « Hey, mon corps, c'est mon allié. » Puis lui aussi veut être à son poids naturel et de se reconnecter comme ça doucement à lui pour arriver à l'obtenir.
Mmh. Guylaine, votre dernier livre s'appelle « Manger ses émotions, pourquoi on succombe, comment on s'en sort ». C'est vrai que des fois, ça fait du bien manger ses émotions. Pourquoi donc?
En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que la raison, c'est que on aurait comme trois centres, comme trois cerveaux, je dirais. Le cerveau qu'on connaît, celui en haut, le cœur, donc le côté, parce qu'on a réalisé qu'il y avait plus de neurones dans le cœur et dans les intestins que ce qui est nécessaire pour le travail que ces organes-là font. Mm-hmm. Donc, on a commencé à réaliser qu'il y avait des signaux qui partaient de là, qui montaient au cerveau au lieu de que ce soit juste dans le sens inverse. Et ce qui arrive, c'est que évidemment, au niveau structurel, ces neurones-là sont très, très collés sur la partie physiologique. Donc, quand on ressent des choses, tu sais, papillons dans l'estomac, on est nerveux, on a les boyaux qui se tordent. Donc,
c'est
dans le tube digestif. Donc, ça peut donner l'impression de dire, ah ben si je mets de la nourriture là, ça va apaiser. Et donc, c'est pas sorti de nulle part là, qu'on pense que manger a un effet à calmer cet espace-là. Mais plus on s'entraîne à repérer les sensations, plus on les distingue et qu'on réalise, finalement, comme je dis toujours aux gens, quand vous avez mal au pied, vous ne dites pas « je vais aller prendre une barre de chocolat », vous êtes conscient que le pied n'est pas relié avec votre sensation de mal-être par rapport à ce que vous sentez. Alors que quand on a l'estomac comme qui flotte un peu parce qu'on est nerveux, on peut se dire « ah ben j'ai peut-être faim » et là, aller manger, dans le fond, c'est que c'est juste une confusion au niveau des sensations, exactement.
Ah, c'est fascinant, ça. Mm-hmm. Et on fait comment... Bon, j'imagine déjà de le savoir, c'est bien, mais on fait comment pour contrer ça? On va prendre une marche?
Ça, c'est la pire des choses à faire. Parce que l'idée, c'est d'apprendre. Tu sais, moi, je dis, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Apprendre à reconnaître les signaux de notre corps, ça se fait comme... Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est quoi? C'est d'aller faire l'immersion complète.
Ouais.
On apprend la langue dans sa plus profonde façon de le faire, plus que dans un livre. Donc, l'idée, c'est que quand on sent ces sensations-là puis qu'on a un doute, c'est de rester dans les sensations pour apprendre de plus en plus à les reconnaître. Puis on dit, dans le fond, l'idée, c'est comme apprendre à surfer. Au lieu de se faire submerger par la vague émotionnelle, c'est d'apprendre à surfer dessus. Comment on apprend à surfer? Bien, c'est en apprenant à tolérer. Donc, la sensation, il y a des fois qu'on peut la tolérer. Donc, on reste dessus. Puis on fait « Ah, OK, c'était ça que je sentais ». Puis doucement, on n'a plus envie de manger parce que, comme je dis, une fois qu'on repère la sensation, on n'a plus le réflexe de se dire c'est la nourriture qui va combler ça. Sauf que quand on apprend à surfer, bien, on peut aller dans des places où il y a des petites vagues, puis après ça, des moyennes vagues, puis des grosses vagues. La vie, c'est la vie. Hein? Des fois, il y a des grosses vagues qui nous frappent, puis bon, on ne peut pas rien y faire. Donc, c'est d'accepter que c'est un processus, puis que des fois, ça va être trop gros et on va manger. Mais en comprenant que c'est des étapes à franchir, mais je dirais que si vous avez un doute que c'est peut-être ça que vous vivez, c'est d'aller, d'attendre, de mettre du temps entre le moment où est-ce qu'on sent le désir de manger et le moment de manger. Plus on étire le temps, plus on apprend à tolérer l'inconfort que les émotions nous procurent.
Guylaine Gavremont, vous êtes diététiste, nutritionniste, auteure conférencière, fondatrice et directrice générale de la clinique Mulan, mulan.ca, pour en savoir davantage. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Nathalie Billon.
Bonjour.
Votre livre « Finir le jour, rencontres et réflexions en fin de vie », c'est un petit peu présenté sous forme de reportage. Donc, vous rapportez des témoignages de gens en fin de vie, des gens en phase terminale, de tous âges, avec différentes réalités. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'habituellement, quand on parle de fin de vie, de cette étape-là, ça va être souvent d'un point de vue plus médical. Donc, on va s'adresser à des médecins qui travaillent en soins palliatifs et qui vont nous parler de cette vision-là, de leur accompagnement, du service de l'équipe soignante et tout ça. Vous, c'est vraiment l'autre côté du miroir, totalement. Est-ce que ça a été, en fait, cette approche-là, comment vous avez articulé ça, c'est-à-dire d'entrer là, dans ces centres-là, et d'approcher les gens pour qu'ils vous parlent?
Bien, premièrement, je suis très, très, très contente de la façon dont vous avez compris le livre, parce que c'est exactement ça. Parce que c'est ce qui m'a frappée. D'entrée de jeu, je me souviens, moi, j'avais une discussion sur la phase terminale avec un ami. On se demandait un peu comment agir et tout ça par rapport à une personne en fin de vie. Et par la suite, je me suis dit, bon, j'étais à la Grande Bibliothèque nationale, puis j'avais un peu de temps devant moi. Je me suis dit, je vais regarder un peu les livres qui se font à ce sujet-là. Et vraiment, premièrement, il n'y a pas énormément de livres à ce sujet. Et c'est ça, on n'entend pas les gens. On entend évidemment leur point de vue est rapporté avec beaucoup de justesse de la part des experts. Je ne tiens pas du tout à dénigrer quoi que ce soit
sur ce plan-là. Mais ce n'est pas leur voix.
Mais ce n'est pas leur voix. Mm-hmm. Et ça m'a vraiment... Ça me parlait beaucoup. Ça. Je me dis, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ne les entend pas? Ces gens-là sont encore vivants. Il faut bien le comprendre. Mm-hmm. Ce sont des vivants. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, il faut qu'on les entende. Il faut que je fasse quelque chose.
Et vous êtes entrée simplement dans leur chambre, vous vous êtes présentée et ils se sont ouverts à vous?
C'est sûr que, premièrement, la façon dont j'ai orchestré ça, j'ai monté un plan, j'ai bien réfléchi à la question aussi. Je me suis renseignée, j'ai fait des recherches, j'ai lu là-dessus. Et je voulais rencontrer les gens dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est sûr, vraiment des gens là, qui se sentaient le plus en sécurité possible là, dans leur environnement, sur le plan du confort physique aussi, parce qu'on parle de grands malades.
Ouais.
Et j'ai approché les directeurs de maisons de soins palliatifs pour ça. Je trouvais vraiment que c'était le meilleur endroit, là, selon les lectures que j'avais faites. Et je leur ai présenté mon plan et ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord, puis ils ont dit, bien, écoutez, on va soumettre ça à nos patients. On va leur demander si ça leur tente de parler. Et vraiment, ça s'est fait très facilement. La réponse a été très positive. Mm-hmm. Ça, j'étais vraiment contente de constater ça.
Ce sont des femmes, ce sont des hommes, je le disais, de tous âges, avec des maladies différentes également, des fins de vie différentes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui les unissait, c'est-à-dire un point commun entre eux, dans leurs témoignages, dans leurs confidences?
Ce que j'ai remarqué, moi, des gens que j'ai rencontrés, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui voulait me parler, donc on ne peut pas, là, ici,
généraliser,
oui, c'est ça, de toutes les attitudes. Mais les gens que j'ai rencontrés, ce qui était fascinant, c'est que ce qui revenait le plus souvent, c'était le bonheur d'être utile jusqu'à la fin.
Ah oui.
Vraiment, ça les habitait beaucoup. Ils disaient, on est content, je suis content de pouvoir rendre service avec mon témoignage, j'espère que ça peut servir, j'espère que ce sera utile. L'impression de ne pas être mis de côté avant même que ça se termine, je veux dire, parce que c'est un peu ça qu'on fait dans notre société aussi. Il faut se questionner, je veux dire, ces gens-là ont encore des semaines, des mois parfois.
Et des choses à dire, là, c'est clairement exprimé dans votre livre.
Encore une fois, ils sont vivants encore, ils sont peut-être affaiblis, mais ils sont vivants. Moi, les gens que j'ai rencontrés étaient tous lucides, ils étaient tous très présents, hein, très, très présents justement dans le moment présent. Et vraiment, de se sentir utile, c'était ce qui ressortait.
On parle, vous posez différentes questions sur la douleur, sur la perte des proches, l'accompagnement des proches également, et bien sûr sur la mort, cette mort-là qui est imminente. Est-ce que la peur existe beaucoup?
La peur, elle était présente, c'est sûr, mais encore une fois, je me fie aux interviews que j'ai faites. Ce qui ressortait, c'était aussi la peur de souffrir. Il faut bien comprendre. Les gens avaient très peur. Leur maladie, un cancer en phase terminale généralisée, parfois, ça dépend évidemment là, mais de l'atteinte, mais ça peut générer une certaine douleur. Ces gens-là étaient très rassurés dans les maisons de soins palliatifs que j'ai visitées parce que leur douleur était contrôlée. Ça, c'était une inquiétude qui était présente. Autrement, je parlerais plus d'appréhension. Mm-hmm. Hein, devant l'inconnu, c'est un peu ça. C'était ce qui ressortait. C'est, oui, on ne sait pas c'est quoi mourir. Ça arrive une seule fois dans notre vie, aussi paradoxal ça puisse. C'est oui. Ça. Alors, c'était de l'appréhension, oui. C'est sûr qu'il y avait un peu de peur, mais je dirais que ce qui revenait, c'était vraiment la peur de souffrir quand même avant tout.
Et la peur aussi de ce qui suit, parce que nous, quand on n'est plus là, la vie se poursuit, les gens qu'on aime continuent à vivre. Est-ce qu'ils auront tout ce dont ils ont de besoin? Est-ce que les moyens financiers seront là et tout? Ça, vous en parlez également, tout comme vous parlez des soins palliatifs. Et ça, j'ai trouvé que c'est un bel hommage à ces centres-là qui font un maximum pour accompagner les gens. Il y a aussi des conseils ou des trucs pour justement comment on offre l'aide psychologique, comment on peut chercher l'aide financière.
Oui, et ça autant pour le malade, mais aussi pour l'entourage. Hein? Mmh. L'aide psychologique, ça peut aider l'entourage aussi parce que parfois on est un peu démuni. Ça, c'est vrai que ça forme un bon chapitre dans mon livre. Comment faire face à ça, une personne qui s'en va, un proche qui s'en va, quelqu'un qu'on aime, ça peut être notre conjoint, notre conjointe. On avait une autre relation avec cette personne-là. Là, on tombe vraiment dans quelque chose de différent. Mm-hmm. Et effectivement, c'était très, très important pour moi d'aborder ça et de savoir aussi comment les patients en phase terminale voulaient qu'on agisse avec eux.
Ouais.
Ça, oui, c'était oui. Le « avec eux » envers… Et vraiment, ce qui ressortait souvent, c'était rester le plus naturel possible. C'est sûr que la situation, elle est exceptionnelle, on en est conscient. Mais autant que possible, de pas, pour un accompagnateur, que ce soit un proche, la famille, tout ça, de pas se donner une mission, l'arriver comme un petit soldat nécessairement dans une chambre, puis de se dire, faut pas parler de ça, faut jeter à l'attitude. Quand on rencontre quelqu'un pour aller prendre un café, un ami ou tout ça, on jase, tout simplement. Mm-hmm. Et autant que possible, agir un peu de la même façon quand on rencontre, quand on va voir la personne qu'on aime, même si elle est dans ses derniers jours, c'est...
Et en terminant, parce que le temps file, ça vous a appris quoi sur vous-même, sur votre propre fin, là, qui va arriver un jour, comme à nous tous?
C'est une question un peu difficile à poser. Moi, ça m'a rassurée de savoir, en tout cas, que les maisons de soins palliatifs existent. Ça m'a rassurée aussi de savoir que même si vous n'êtes pas dans une maison de soins palliatifs, quand même, votre médecin, le CLSC de votre région, je veux dire, il y a quand même, malgré ce qu'on peut dire de nos services de santé, il y a quelque chose, là, une structure là, qui est présente pour prendre soin de nous. Ce que ça m'a... Écoutez, vous m'en posez une bonne...
Je vous en pose une bonne, oui. Puis en même temps, c'est parce que ça nous fait... Le livre nous fait réfléchir également. On va continuer à réfléchir là-dessus. Nathalie Billon, merci beaucoup. Vous avez été accompagnée par Jocelyne Lauzon, psychologue spécialisée en fin de vie pour...
creuser les questions.
Oui, pour l'aventure de ce livre-là. Merci beaucoup. Finir le jour, merci rencontre et réflexion en fin de vie. Ça a été un plaisir, Nathalie Billon. Merci, Kamal Salifou, pour toute la semaine. Et nous, on se retrouve lundi. Je vous embrasse. Bye bye.